Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture en direct de la Maison de la Radio. Une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon et Margot Loridon, mais aussi Lucas Lazo et Rosalie Suc, réalisée aujourd'hui par Alexandra Candilonguet et mise en ondes par Edouard Rubinstein. Deuxième temps de notre série consacrée aux pays nordiques, après nous être intéressés hier au mythe du progressisme scandinave. Avant d'aborder demain la résilience de l'Islande depuis la crise de 2008 et puis jeudi la protection des peuples autochtones du Groenland à la Laponie, tournons-nous aujourd'hui vers la Norvège et plus particulièrement vers sa région arctique. La Norvège à la conquête des glaces, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Des questions comme le développement durable et l'économie des océans sont tout en haut de l'agenda. Du point de vue norvégien, l'Arctique, c'est bien davantage que des glaciers et des ours polaires. Nous avons 10% de notre population qui vit en zone arctique. Donc nous cherchons à trouver des moyens pour créer des emplois et développer l'éducation. Car c'est une région dynamique où l'économie est en pleine expansion.
Nous avons beaucoup de jeunes gens de 20 ou 30 ans qui reviennent vivre à Hammerfest. Ils veulent travailler dans cette industrie et participer au développement de la région. Nous avons eu 15 000 nouveaux habitants ces dernières années. Ils veulent que nous construisions des infrastructures, des routes, ce que nous avons beaucoup fait ces dernières années.
Melkoja a permis à Hammerfest d'avoir une meilleure offre culturelle, plus de logements, plus d'habitants et bien sûr, beaucoup plus d'emplois.
Dans l'ordre, la ministre des Affaires étrangères norvégienne, la maire de la ville arctique d'Hammerfest et puis un habitant précisément de cette ville qui travaille dans l'industrie gazière. Trois témoignages recueillis par France 24 dans une émission diffusée en janvier 2019 ici l'Europe. Alors que le développement de la Norvège s'est longtemps concentré dans la moitié sud du pays, reléguant sa région septentrionale à l'écart des centres de décision, la découverte de ressources pétrolières et gazières conséquentes en a fait, au cours de la décennie écoulée, le nouvel Eldorado d'une économie essentiellement fondée sur l'exploitation des hydrocarbures. Un paradoxe pour ce pays, souvent présenté comme vert, notamment du fait de sa politique active en faveur de l'électrification des véhicules. Plusieurs ONG ont d'ailleurs porté plainte contre l'accord de licence en vue de nouveaux forages dans la mer de Barents et le dossier est actuellement en débat à la Cour suprême. Mais ces réserves n'empêchent pas les autorités et les grandes entreprises de poursuivre leurs investissements dans la région. À la faveur de cet enthousiasme, des villes du Grand Nord norvégien se sont étendues, à l'instar de Tromsø, devenue une sorte de capitale de l'Arctique avec son université, son siège du Conseil de l'Arctique. Car si la région n'attise pas seulement les appétits d'Oslo, le pays compte bien se poser en leader international dans la gestion de ce paradis blanc. Mais cette ambition se heurte notamment à la rivalité de la Russie. Alors comment la Norvège parvient-elle à accorder protection de l'environnement et exploitation des ressources en Arctique ? Comment l'intérêt récent du reste du pays et de la planète pour leur région est-il perçu par les habitants de l'Arctique norvégien, longtemps coupé du monde ? Et de quelle marge de manœuvre dispose Oslo face aux ambitions arctiques tout aussi importantes du côté de Moscou ? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin d'abord Camille Escudé. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Camille Escudé. Vous êtes géographe, chercheuse au Centre d'études des relations internationales, le CERI Sciences Po, et puis au groupe d'études géopolitiques. Avec nous également Florian Vidal. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes chercheur au Centre Russie Nouveaux États Indépendants de l'IFRI et vous êtes un spécialiste de l'écologie politique et de l'anthropocène et vous connaissez particulièrement bien la Norvège. J'évoquais tout à l'heure dans mon chapeau à l'instant cette plainte déposée par des ONG. La Cour suprême norvégienne vient de se saisir de la plainte donc qui réclame l'annulation de permis pétroliers dans l'Arctique. Pour elle, ce sont des permis qui violent l'article de la Constitution qui garantit le droit à un environnement sain. Camille Escudé, est-ce que la Cour suprême pourrait annuler ses permis et ainsi remettre totalement en cause le modèle économique du pays ?
Il me semble que c'est une possibilité assez peu probable actuellement, tout simplement parce que vous l'avez bien dit, toute l'économie norvégienne est fondée sur cette exploitation du pétrole et du gaz. C'est le moteur de l'économie norvégienne. Cette exploitation C'est la source de 200 000 emplois en Norvège. La Norvège est le principal exploitant et exportateur d'hydrocarbures en Europe. Donc ça serait absolument remettre le modèle norvégien, son modèle également social, qui est souvent vanté dans les pays, dans les autres pays européens ou d'autres pays du monde. Et tout simplement sa richesse, puisque la Norvège, c'est aussi le plus gros fonds souverain du monde. Donc ça serait une décision relativement peu probable et absolument inédite.
Peu probable ne veut pas dire impossible, d'autant que la justice est en Norvège tout à fait indépendante. Florian Vidal, est-ce que ça vous paraît tout aussi improbable? Et si c'est le cas, faisons quand même l'hypothèse que la Cour suprême donne raison aux deux ONG et regardons les conséquences possibles, Florian Vidal.
En fait, juste avant de vous rejoindre à l'émission, la décision est tombée en fait de la Cour suprême.
Ah, très bien.
Elle rejette.
D'accord. Voilà, bah donc on a la réponse.
Voilà. Et en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est la justification qui vient d'être donnée. Un des points, c'est qu'en fait, la Norvège n'est pas responsable du pétrole ou du gaz brûlé en dehors du pays. Et ça, en fait, les ONG, justement, se battaient sur cette idée que ce pétrole, gaz extrait de la Norvège, finalement, qu'il soit brûlé en Norvège ou dans un autre pays, c'est toujours du pétrole norvégien, en quelque sorte. Donc, sauf que là, voilà, la Cour suprême vient de rejeter cette plainte des deux ONG principales qui étaient Greenpeace et Nature and Home. Voilà.
Ouais, bah on pouvait pas être plus dans l'actu.
Oui.
alors Camille Escudé, au-delà de cette décision qui vient d'être rendue de la Cour suprême, il y a eu évidemment en Norvège comme partout une crise sanitaire avec des conséquences énormes sur l'économie norvégienne et notamment pour l'emploi. Quand on regarde un peu les chiffres, le chômage est passé entre février et mai de 2,7% à 14,5%. Ça donne un tout petit peu une idée de l'ampleur de la catastrophe. Vous le disiez tout à l'heure, évidemment, c'est une économie qui repose beaucoup sur son secteur pétrolier, qui a été considérablement bousculé par cette pandémie. Mais est-ce que cette exposition, précisément, au choc systémique, a fait un peu réfléchir le gouvernement norvégien? Est-ce qu'on se dit maintenant qu'il est urgent, au-delà des enjeux climatiques évidemment qu'on évoquait, mais urgent de sortir de cette dépendance aux hydrocarbures?
Je dirais que la Norvège fait face à ce qu'on appelle souvent une dissonance cognitive, c'est-à-dire à la fois, elle est bien consciente du risque que représente cette dépendance absolue aux hydrocarbures et le fait que une grande majorité de son économie soit fondée sur cette exploitation des hydrocarbures qui est effectivement très sujette à des risques systémiques. En même temps, ce n'est pas à l'ordre du jour de sortir de cette dépendance, mais la Norvège essaye de trouver d'autres débouchés pour son économie, par exemple la pêche, entre autres, ou encore le tourisme. Vous avez parlé de Tromsø, c'est vrai que Tromsø est en train de devenir une très grande ville touristique en Norvège.
Ouais, on va revenir.
Donc absolument, en continuant à se tourner vers l'Arctique, il reste d'autres débouchés, mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour de sortir de cette dépendance au pétrole.
Sachant que quand on parle de pêche en Norvège, on parle essentiellement en réalité d'aquaculture. Hein.
C'est, absolument. Ouais.
Florian Vidal, sur cette question de la dépendance aux hydrocarbures, au printemps, lorsque la première ministre Erna Solberg a annoncé un grand plan d'aide au secteur pétrolier, elle a promis également de rendre l'économie moins dépendante au pétrole. Elle a annoncé un grand plan de restructuration verte. On ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière. Il y a eu des annonces depuis, et puis de façon générale, quels sont les efforts qui ont été déployés ces dernières années pour précisément diversifier un peu l'économie?
Alors, l'une évidemment importante, c'est l'électrification de l'économie et des infrastructures norvégiennes. Donc, vous avez évoqué la question du parc automobile, puisqu'en France, en Norvège, la Norvège aujourd'hui est le plus grand marché en fait en termes de vente de voitures électriques, où il y a le plus fort ratio en fait entre utilisateurs de véhicules électriques et véhicules donc essence diesel. Et ce qui est intéressant, c'est que récemment a été annoncé un plan qui est assez intéressant au niveau de la décarbonation que la Norvège se donne. C'est la question de la capture et du stockage de CO2. Et donc, il y a un grand projet qui va être financé par l'État norvégien. Et c'est un projet qui est soutenu par trois grosses entreprises pétrolières, donc Equinor, les Norvégiens, Shell et Total, qui vise en fait à stocker donc du CO2 provenant d'Europe, mais à partir l'idée c'est que ça pourrait être utilisé aussi, donc à être importateur de CO2 qui serait stocké dans les sous-sols, le fond marin norvégien. Donc ça c'est une idée d'un développement, puisque derrière il y a toute l'innovation technologique qui pourrait mettre en fait la Norvège un peu en avant en matière d'innovation sur ce secteur-là, puisque un des objectifs désormais des sociétés internationales, c'est la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, l'idée de pouvoir stocker ce CO2 dans les sous-sols permettrait en fait d'avoir un avantage compétitif au niveau technologique pour les Norvégiens. Donc ça, c'est un des axes importants sur lequel le gouvernement conservateur vise, en tout cas ambitionne sur ces questions-là. Mais c'est un projet de long cours.
Camille Escudé, on a intitulé l'émission « La Norvège à la conquête des glaces ». On aurait pu dire « La Norvège à la conquête de la frontière de glace ». Cette formule, elle est très importante parce que derrière tout cela, il y a une définition administrative très claire. La frontière des glaces, Iskanten en norvégien. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on appelle la frontière de glace? Parce que derrière tout cela, il y a aussi la capacité à aller exploiter précisément des ressources qui ne sont plus précisément sous la glace. Et ça fait l'objet d'une bataille politique intense depuis des années.
Absolument. Alors, cette frontière de glace, elle est aujourd'hui discutée en Norvège, tout simplement parce qu'il y a ce débat entre tous les intérêts déployés par l'industrie pétrolière extrêmement puissante et les considérations environnementales. Et ce débat, c'est également en fait un débat scientifique, puisqu'il concerne cette définition scientifique d'une zone à protéger en mer de Barents. Donc, on voit encore une fois que cette frontière de glace est non seulement un débat scientifique, mais également un débat politique et économique. Cette frontière de glace, Iskanten, c'est l'endroit en fait où l'eau se transforme en glace dans la mer de Barents au nord-ouest du pays. C'est-à-dire une zone qui peut varier d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, en fonction de la température de l'eau. Et effectivement, les bouleversements climatiques que connaissent ces régions arctiques, et en particulier la mer de Barents, font que cette frontière de glace, aujourd'hui, elle est extrêmement mouvante et elle est de plus en plus repoussée vers le nord.
Ah oui, parce que la définition de tout cela, c'est tout est une histoire de probabilité. En gros, c'est quelle est la probabilité de trouver ici, là, de la glace à telle période de l'année. Et quand on regarde les choses, on a un spectre qui fait qu'on a deux positions extrêmes et entre les deux 150 000 km² de marge, en gros.
Oui, absolument. Ouais. Et surtout, au fur et à mesure que le climat se réchauffe en mer de Barents, c'est là où également la pression qui s'intensifie pour redéfinir cette frontière de glace.
Alors, Florian Vidal, la position des Norvégiens, des différents gouvernements, c'est quoi? C'est de dire que tant que cette frontière de glace est repoussée, eh ben c'est bon, on peut aller exploiter. Parce que je vous pose la question, parce qu'il y a 5 ans, le gouvernement avait justement annoncé que la frontière administrative allait être redéfinie. Le ministre de l'Environnement de l'époque avait dit « il est important de disposer de connaissances actualisées sur l'emplacement géographique des zones fragiles ». J'ai donc demandé à l'Institut polaire norvégien de mettre à jour ses calculs. Donc en gros, à chaque fois que ça bouge, on repousse cette frontière et on exploite.
C'est un peu l'idée, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est au mois de novembre, la direction norvégienne du pétrole, donc c'est celle qui est habilitée à distribuer les licences pour explorer et puis exploiter et donc mener des activités pétro-gazières, a attribué 9 nouveaux blocs. Et parmi ces 9 nouveaux blocs, 8 sont dans la mer de Barents. Et c'est intéressant que ces blocs-là, en fait, sont situés beaucoup plus au nord, en fait, que d'habitude, donc se rapprochent de cette fameuse frontière de glace. Et évidemment, ces annonces-là ont évidemment mobilisé encore plus les ONG qui dénoncent évidemment la menace, en fait, pour l'environnement naturel de procéder à ces activités. Alors, l'idée, c'est d'explorer. Tout d'abord, c'est-à-dire évaluer la nature et la possibilité ensuite d'explorer. Donc, à ce stade-là, il n'y a aucune, exploitation qui a été validée. Et il y a pour l'instant, mer de Barents, un site en cours d'exploitation qui a démarré en 2016, qui est géré par l'Italien Eni. C'est une plateforme pétrolière en offshore, donc Goliath. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est un exemple, en fait, voilà, comment pourraient finalement se dérouler ces activités pétrolières à mer de Barents. C'est qu'en fait, on constate énormément de problèmes techniques, en fait, à produire sur ce site-là, qu'on ne sait pas vraiment la rentabilité à terme de ce site d'exploitation. Et par exemple, la capacité, donc, optimale de ce site, donc Goliath, c'est 100 000. Donc, pour vous donner des ordres de grandeur, 100 000 barils de pétrole par jour. En 2018, la production avait atteint 64 000 barils par jour. Et en fait, en 2019, l'année dernière, la production est retombée à 38 000 barils par jour. Donc, il y a un
donc,
vrai,
en,
vrai
en
problème.
Donc, en fait, c'est pas aussi rentable qu'on pourrait l'imaginer. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Au-delà, évidemment, des risques environnementaux qui sont colossaux, vous l'avez expliqué. On imagine ce qu'une fuite de pétrole pourrait avoir comme conséquence si elle vienne, si le pétrole vient se déverser sur les glaces, sur les côtes, etc. C'est une catastrophe, en particulier dans ces zones septentrionales où, si ça se passe au moment de la longue nuit d'hiver, ben, en plus, vous avez aucune visibilité. On imagine la catastrophe que c'est. Mais en réalité, derrière tout cela, il y a un problème de rentabilité, d'exploitation, c'est
oui,
ça?
Oui, tout à fait. Mmh. Et il faut aussi, évidemment, le prix actuel du pétrole, en fait, n'est pas suffisant, en fait, pour vraiment amortir un vrai effet d'entraînement pour exploiter ce pétrole dans la région arctique.
Sur ces potentialités, Camille Escudé, c'est vrai qu'on lit parfois l'idée qu'il y aurait 20%, 25% des ressources pétrolières mondiales. On ne sait pas d'ailleurs exactement sur quel type de calcul ça se fonde, tout cela, parce qu'on sait bien que tout dépend des techniques utilisées. Il y a stock et stock en matière de pétrole, mais il ne faut pas oublier cette difficulté technique à aller exploiter tout ça, qui est quand même une limite, là. Tout à l'heure, on parlait de la frontière de glace, il y a une frontière technique, là.
Absolument. En fait, on a beaucoup parlé de l'Arctique comme un potentiel Eldorado en termes de pétrole, de gaz, après la publication d'une étude américaine en 2008 qui dévoilait effectivement des chiffres absolument colossaux à découvrir. Mais cette étude de 2008, elle a été depuis largement remise en cause. En particulier parce que effectivement il s'agissait, on ne sait pas exactement, de probabilité ou encore de probabilité d'exploration dans la région, et surtout on a eu tendance à minorer les difficultés techniques et technologiques de l'exploitation, notamment en offshore, c'est-à-dire dans les mers arctiques, où il faut le rappeler, effectivement il y a la nuit polaire pendant une très bonne partie de l'année, l'englacement, le fait que le réchauffement climatique participe à détruire la banquise arctique, mais loin de faire des autoroutes maritimes, cette banquise arctique elle est réduite en petits morceaux et elle devient en fait dangereuse pour le passage de navires. Donc tout un tas d'éléments à la fois techniques mais également humains et donc financiers qui rendent cette exploitation pas si simple en termes d'exploitation offshore notamment.
Pas si simple, mais essentiel, Florian Vidal. Quand on regarde les choses au niveau de la Norvège, au niveau du territoire, parce que nous, évidemment, on a essentiellement des considérations économiques, énergétiques, mais il faut regarder le territoire. Et on est là, dans ce territoire du nord de la Norvège, territoire arctique norvégien, dans une zone où habite, au fond, une petite minorité, c'est à peu près 10% de la population qui vit là. C'est une population qui, traditionnellement, a été très coupée du reste du pays, et en réalité il y a un enjeu très fort de maintien de ces populations dans cet espace-là. Il faut absolument développer ce territoire, et évidemment les hydrocarbures sont un levier très important de ce développement territorial.
Exactement. C'est l'un des enjeux essentiels en termes de gouvernance en fait du pays. C'est aussi la continuité de maintenir un modèle économique, puisque les réserves de pétrole et de gaz sur la partie ouest-sud du pays sont en train de s'épuiser. Il faut compenser ces pertes par en menant de nouvelles exploitations dans ce grand nord. Donc la mer de Barents doit compenser les fins d'exploitation de long de la côte norvégienne, notamment dans la région de Stavanger. Et pour les Norvégiens du Nord, en fait, cet intérêt donc d'Oslo, des gens du Sud, entre guillemets, est vu aussi un peu avec méfiance. Il y a un cas qui est assez intéressant, c'est le cas des îles Lofoten, donc, qui se trouvent donc, dans la région arctique, juste au-dessus du cercle polaire. En 2018, il y a eu des discussions pour l'attribution de licences d'exploration de pétrole dans la région de cet archipel. Et en fait, il y a eu des sondages où plus de 70% de la population était contre en fait ces activités-là, puisque ça menaçait le patrimoine naturel de cette région-là et les activités de pêche. Puisqu'en fait, une des contradictions donc qui se met en évidence, c'est l'activité d'extraction des ressources naturelles et les activités de pêche. Puisque l'éventualité, vous l'avez mentionné, d'une fuite pétrolière en mer de Barents aurait des conséquences majeures pour les activités de pêche.
Camille Escudé, quels sont les leviers pour développer ces territoires, ces grands territoires du Nord? Il y a évidemment les hydrocarbures, on en a parlé, il y a la question de la pêche, mais il y a aussi d'autres leviers par lesquels on essaie de développer ce territoire et maintenir ces populations. Faut imaginer aussi, les auditeurs n'ont peut-être pas conscience, que c'est en plus un territoire qui se vide en réalité. De plus en plus de gens descendent vers le Sud parce qu'il y a plus de travail. Donc il y a un enjeu social très fort.
Absolument. Vous avez bien mentionné évidemment la question des hydrocarbures, la question de la pêche, qu'il s'agisse effectivement de l'élevage de saumon, mais également de la pêche en mer de Barents. Il y a d'autres leviers. Un levier principal, je dirais, c'est le tourisme, avec la mode du tourisme arctique qui est apparue depuis plusieurs années, à la fois en Laponie, mais à la fois avec le tourisme de croisière le long de la côte norvégienne.
Et là, Tromsø est devenue vraiment la capitale de ce tourisme arctique, hein.
Oui, tout à fait. Ouais. En fait, il faut bien mentionner que tout au long de la côte norvégienne, on peut naviguer, c'est-à-dire qu'il y a toute la côte est libre de glace et se sont développés effectivement notamment un tourisme de croisière avec les anciens express côtiers norvégiens, les Hurtigruten, qui sont devenus des navires de croisière un petit peu de haut niveau ou même parfois de luxe. Donc qui sont des navires de croisière qui permettent de rejoindre le Cap Nord, c'est-à-dire le lieu le plus au nord, le plus septentrional de toute la Norvège. Et Tromsø fait partie, est vraiment un point névralgique de ce tourisme arctique en Norvège, avec un certain nombre d'activités comme la chasse aux aurores boréales, l'observation de baleines, etc. etc. Qui fait qu'aujourd'hui, Tromsø est devenue une grande ville touristique avec effectivement l'attrait de l'Arctique en termes de touristes, à la fois pour l'Europe, mais également pour de nombreux pays asiatiques, que ce soit le Japon, la Chine, par exemple.
Alors, il y a le tourisme, mais il y a aussi plus généralement le commerce maritime, parce que cette fonte des glaces, elle a pour effet, évidemment, de libérer cette route maritime du Nord, cette fameuse route, ce fameux passage du Nord-Est. Dès lors, on a effectivement cette partie nord de la Norvège qui se retrouve dans une position géographique très avantageuse. Camille Escudé, je m'adresse évidemment à la géographe que vous êtes. Une ville, par exemple, comme Kirkenes. Alors, j'ai la carte sous les yeux, je vois où elle se situe. C'est la dernière ville norvégienne, en réalité, avant la Russie. On est à peu près à une cinquantaine de kilomètres de la ville portuaire russe de Mormansk, qui est le port principal dans cette mer de Barents. Est-ce que, par exemple, Kirkenes pourrait devenir, à la faveur, pardonnez-moi l'expression, du dérèglement climatique, mais un port majeur pour le commerce maritime mondial de demain? Et est-ce que c'est un point sur lequel on mise déjà du côté d'Oslo?
Alors, cette idée d'autoroute maritime mondiale, je pense qu'il faut un peu la nuancer, surtout que Kirkenes, on est très loin aujourd'hui de la situation de Mourmansk. Mourmansk, aujourd'hui, c'est une très grande ville, c'est 300 000 habitants au nord du cercle polaire. Kirkenes, c'est à peu près... Il y a à peu près 100 fois moins, en fait. Il y a un peu plus de 3000 habitants à Kirkenes. Et aujourd'hui, si l'ensemble de la côte norvégienne est libre de glace, c'est essentiellement pour un commerce qu'on appelle de destination. C'est-à-dire de cabotage, d'aller d'une ville à l'autre ou d'aller d'une ville comme Kirkenes rejoindre faire quelques dizaines ou quelques centaines de kilomètres, mais on est bien loin.
Mais ça, c'est pour le moment. Ça, c'est pour le moment, Camille Escudé. Mais projetons-nous dans 10 ans, 20 ans, après des investissements massifs, on est quand même là sur un point géographique où on peut faire transiter des marchandises de l'Asie, de l'Europe. Évidemment, il y a du travail. Il faut mettre des infrastructures en place, mais le potentiel est énorme. Non?
Le potentiel est effectivement énorme, mais je pense que vous avez mis le doigt dessus. La question, c'est la question des investissements massifs.
Et aujourd'hui, il y a plein de pétrole.
Dans 10 ans, 20 ans. Oui, mais aujourd'hui, il s'agit principalement des infrastructures en Russie, parce que ouais. Vous l'avez bien dit, si la Norvège, c'est effectivement un pays très riche qui dispose d'infrastructures, déjà, je ne pense pas que Kirkenes soit une ville actuellement, en tout cas adaptée aux navires qui pourraient traverser cette future éventuelle route maritime. Et c'est vrai que si, sur le papier, du moins, cette route maritime du Nord, elle pourrait faire gagner 20-30% peut-être de distance entre, par exemple, les villes asiatiques et les villes européennes. En géographie, quand il s'agit de distance, c'est jamais seulement la distance géométrique, c'est aussi la distance notamment économique. Et pour les grands armateurs aujourd'hui, ce n'est pas encore une route viable, en tout cas dans les dizaines d'années à venir. Il y a des géographes comme Frédéric Lasserre qui ont très bien documenté ça en interviewant plusieurs dizaines d'armateurs. Vous l'avez bien dit, les conditions en Arctique aujourd'hui, elles sont très difficiles. Le changement climatique les facilite pas tant que ça, finalement, contrairement aux idées reçues. Et le dérèglement climatique rend aussi le climat beaucoup plus incertain. Et aujourd'hui, on n'a pas encore les moyens techniques, et surtout, même si on les avait, le climat est encore trop incertain pour concurrencer, en tout cas d'ici, je dirais, une cinquantaine d'années, les grandes routes actuelles du commerce mondial comme Suez ou Panama.
Vous parliez de la Russie, évidemment, elle est jamais très loin quand on parle de cet Arctique.
Aujourd'hui, l'énergie fossile n'est plus qu'un souvenir que nous devons oublier. Cela signifie que l'ère pétrolière touche à sa fin.
Votre production de gaz et de pétrole va reprendre sans délai.
Comment l'Union européenne peut-elle faire pression sur la Norvège ?
Je ne vous laisserai pas me dicter ce que je dois dire aux Norvégiens.
Monsieur le Premier ministre, vous n'allez pas mettre en péril la collaboration pacifique de nos peuples.
Nous avons accepté aujourd'hui le soutien des Russes pour redémarrer la production pétrolière norvégienne.
Il y en a un qui a réservé 5 tables pour la semaine prochaine.
C'est encore des Russes ?
Oui.
Mais quand est-ce qu'ils ont l'intention de partir ?
Ils ne vont pas faire tranquillement main basse sur notre pays sans que personne ne proteste.
Vous admettez que c'est une occupation ?
Bien sûr que non !
Nous devons envisager une mobilisation militaire.
Tu travailles pour les Russes ?
Pourquoi tu bosses toujours pour ces gens-là ?
Ce ne sont pas les Russes qui réclament quelque chose.
La résistance va se répandre. L'heure est venue de se battre pour notre patrie.
Occupy, d'une série norvégienne créée par Erik Skjoldberg. Je pense que je prononce mal, mais j'ai fait de mon mieux. Et Karian Lund, qui avait été diffusée à partir de 2015. On est plongé dans un avenir proche alors que les États-Unis ont quitté l'OTAN. La Norvège élit un gouvernement écologiste et décide d'arrêter tout simplement d'exploiter son pétrole et son gaz. Alors que l'Union européenne est-elle touchée par une grave crise énergétique, elle demande l'appui de la Russie qui très rapidement enlève le Premier ministre afin de mettre sous pression le pays et le forcer à reprendre sa production sous le contrôle, évidemment, de Moscou. Florian Vidal, tout ça est évidemment un scénario tout à fait impossible, où, effectivement, cette Russie, alors on la voit pas demain enlever un Premier ministre, mais très clairement, agit, met une pression qui impose une forme de climat de géopolitique très dur, Florian Vidal.
Oui, cette fiction a fait beaucoup parler. Oui, bien sûr. Cette fiction a fait beaucoup parler en Norvège, mais aussi en Russie, évidemment, puisque c'était la joie des différents événements de calendrier qui se percutaient dans le sens où cette série donc faite en 2015 intervenait finalement quelques mois après la crise en Ukraine et l'annexion par la Russie de la Crimée, qui a été un point de rupture en fait dans les relations entre la Russie et la Norvège, puis ça a brisé la confiance en fait avec Moscou, puisque les Norvégiens et on pourrait dire de manière plus générale les Nordiques en fait ont à ce moment-là perçu Moscou comme pouvant être une menace en fait pour leur sécurité nationale. Et d'ailleurs, ça va dans ce sens-là, les différents documents stratégiques qui ont été publiés ces dernières années par le ministère de la Défense et par les services de renseignement norvégiens mettent en menace numéro une la Russie.
Pourquoi c'est une menace ? Parce que si on reprend là le scénario de cette série, toujours intéressant de regarder ce que nous dit la fiction, la question qu'on se pose, c'est au fond pourquoi la Russie voudrait mettre la main sur ce pétrole norvégien alors qu'elle en a plein chez elle ?
Oui, alors là, le scénario, c'est la question du pétrole, mais les tensions aujourd'hui entre la Russie et la Norvège est tout simplement des rapports militaires en fait, de rapports d'équilibre militaire dans la région. C'est-à-dire que depuis quelques années, une augmentation de parts et d'autre des deux pays, de l'augmentation des activités militaires et un renforcement des infrastructures militaires côté russe, ce qui a été assez rapide ces dernières années, donc qui a suscité de l'inquiétude évidemment de la part des Norvégiens, qui en retour accroît ses activités de surveillance notamment. Et fait intéressant cette année, c'est pour la première fois depuis le milieu des années 80, c'est la navigation en fait de navires de surface américains en mer de Barents. Donc une vraie montée de tension qui s'observe dans cette région-là. Du côté de Moscou, évidemment,
c'est pas la première fois, parce que là vous faites référence, j'imagine, à ce groupe naval de l'OTAN qui est entré en mer de Barents en mai dernier. C'est à ça que vous faites référence ?
Oui, mais c'est le
c'était déjà arrivé en 2018, hein. C'est pas une première.
Mais le navire américain, je parle.
Ah, d'accord.
Parce que
d'accord.
Là, le navire américain, c'était la première fois depuis le milieu des années 80.
Mais il y avait déjà eu un exercice otanien en 2018. Oui. C'est ce que j'ai lu hier pour préparer l'émission. Je ne suis pas allé vérifier.
Tout à fait. Exactement. Et en fait, une des inquiétudes, en fait, côté Moscou, c'est de voir, en fait, ces activités se rapprocher, en fait, de leurs frontières.
C'est une crainte justifiée, Camille Escudé, effectivement. Ces mouvements de l'OTAN, cette inquiétude, ce réarmement, c'est une vraie inquiétude là, cette mer de Barents. C'est vrai qu'on n'en parle pas si souvent que cela en réalité.
C'est une vraie inquiétude, mais aujourd'hui, la plupart des experts sont d'accord pour dire qu'il n'y a pas de menace de conflit actuelle, c'est-à-dire de menace directe.
Ah oui, alors attendez. Pardon de vous couper une nouvelle fois, mais j'ai lu quelque chose en préparant l'émission hier, une fois encore. Un document officiel du ministère de la Défense qui avait été publié l'année dernière sur les enjeux liés à l'Arctique, qui avait fait dire à l'époque à notre ministre, Florence Parly, que la région pourrait devenir un espace de confrontation comparable au Moyen-Orient. Quand on compare l'Arctique au Moyen-Orient, on imagine ce que peut y avoir derrière quand même.
Camille, oui, absolument. Mais c'est amusant que vous parliez de ce document parce que justement avec plusieurs collègues dont Florian Vidal, on avait publié une tribune pour expliquer en quoi cette comparaison nous paraissait assez peu justifiée ou assez peu documentée. Et c'est vrai que en fait aujourd'hui on n'observe pas de menace directe et absolument rien qui à notre avis ne permet de justifier une comparaison avec le Moyen-Orient. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on observe des relations cordiales, pragmatiques. La preuve en est que il y a aujourd'hui aucun différend juridique entre la Norvège et la Russie, tout a été bien réglé dans le cadre du droit international, tout simplement parce que ces relations cordiales sont le préalable aujourd'hui à toute ambition de prospection ou bien d'exploitation d'hydrocarbures. Cependant, vous avez bien raison. Et Florian Vidal vient de le mentionner. Aujourd'hui, l'Arctique, c'est la priorité la plus importante de la politique étrangère de la Norvège. Et c'est ce qui est rappelé dans tous les documents stratégiques norvégiens. Et effectivement, la crise ukrainienne a, à ce titre-là, replacé au centre de l'attention norvégienne la question de la sécurité de l'Arctique. La Russie, aujourd'hui, n'est pas considérée comme une menace militaire directe, mais je dirais comme un voisin un peu... peut-être un peu encombrant et pas toujours un partenaire, mais n'empêche que à grande échelle, c'est-à-dire si on zoome sur la région de Barents, aujourd'hui les relations entre la Norvège et la Russie continuent dans le cadre d'une bonne coopération. Qu'on parle de la question de la pêche, comme on l'a évoqué au début, d'accord de pêche ou d'accord concernant les gardes-côtes. Aujourd'hui, d'après moi, il n'y a rien qui puisse justifier la comparaison avec la situation que connaît aujourd'hui le Moyen-Orient.
Oui, vous faites référence à un accord qui avait été signé entre la Norvège et la Russie en 2010. Oui, parce que Florian Vidal, cette comparaison, elle sous-entend que finalement cet Arctique serait une zone de non-droit absolu. Et c'est ce que vous disiez dans un long article extrêmement intéressant. Vous vous rappelez que c'est quand même une zone qui est soumise à ce qu'on appelle le droit de la mer. Et que donc, même s'il peut y avoir effectivement des différends, d'abord, il y a un cadre qui permet justement de mettre sur la table ces différends et éventuellement de les régler via les Nations Unies. Mais pour autant, Florian Vidal, tout n'est pas réglé précisément. Tous les différends entre les différents pays côtiers ne sont pas réglés quand même. Florian Vidal.
Oui, c'est la
question. Je rappelle, Danemark, Norvège, Russie, États-Unis et Canada. C'est les cinq pays qui ont une façade maritime avec l'Arctique.
Voilà, mais pour l'instant, tous les pays, dans sur la revendication du plateau continental, se passent dans les cadres des Nations Unies, où il y a une commission qui travaille sur ces enjeux-là. Et donc, on reste dans le droit international. On attend chaque État présente ses différents dossiers pour défendre ses intérêts par rapport à ce qu'eux, ils estiment étant leur frontière maritime. Évidemment, ce qui est intéressant dans le cas des relations de la Russie et la Norvège, c'est que la Norvège est dans une position de maintien d'équilibre en fait entre les États-Unis et la Russie. Donc l'idée était toujours les Norvégiens, et même pas dans la guerre froide en fait, c'est ça qui est intéressant aussi à se souvenir, c'est toujours maintenir une position d'équilibre où finalement avec la Russie, les Norvégiens ont l'attitude à la fois d'apaisement, où il est, comme Camille Scudé l'a très bien rappelé, des coopérations qui marchent plutôt très bien à l'image de tout ce qui est la gestion des ressources halieutiques, mais aussi de dissuasion, c'est-à-dire que voilà, la Russie est aujourd'hui dans une remontée de puissance au niveau militaire dans la région arctique. Évidemment, la Norvège entend défendre ses intérêts, et un des points aujourd'hui qui est source de tensions diplomatiques, c'est évidemment l'archipel du Svalbard, qui est à présent qui est aujourd'hui donc régulé par un vieux traité donc de 1920. Et les Russes, en fait, ont une communauté à Barentsbourg, dans cet archipel-là, Svalbard, et entendent maintenir cette présence-là. Mais les Norvégiens, eux aussi, de leur côté, sont dans leur discours, on met un point d'équivalence, en fait, entre l'espace continental et cet archipel-là. Et ce qui frustre, en fait, les Russes, qui se montrent très agressifs à l'égard des Norvégiens. En fait, cette année, il y a eu énormément de rhétorique anti-norvégienne dans la presse russe contre la position de Norvégienne sur l'archipel.
Oui, c'est quand même pas le climat apaisé que vous nous décriviez il y a quelques minutes autour de cet archipel de Svalbard. Malgré ce traité des années 1920, les tensions sont réelles. On est là sur la terre la plus septentrionale de la Norvège, hein, pour les auditeurs.
Enfin. Voilà, et en fait, exactement. Et les Russes agitent toujours la peur, en fait, évidemment pour des raisons de politique interne et de stratégie aussi, de posture en termes de politique étrangère, de la peur en fait que le Svalbard pourrait être un avant-poste de l'OTAN. Mmh. Or, le traité de Svalbard est très clair sur la non-militarisation de cet archipel. Donc c'est vraiment une lutte diplomatique et politique autour de cette région.
On peut y avoir des activités industrielles, mais pas d'activités militaires, c'est ce que dit ce fameux accord. Camille Escudé, on comprend un peu là, le positionnement de la Russie finalement, c'est-à-dire que on peut d'une main passer un accord avec la Norvège, un accord de délimitation des frontières en mer de Barents, après de très très longues années de négociations, mais dans le même temps, on continue de garder la pression, là en l'occurrence sur l'archipel de Svalbard, de l'autre main. Camille Escudé.
Absolument. Absolument, tout à fait. C'est un peu la situation du statu quo entre la Norvège et la Russie, tout simplement parce que le rapport de force n'est pas vraiment égalitaire non plus. La Russie, c'est également le pays de tous les pays arctiques qui est le plus investi en Arctique, dont à la fois la sécurité mais également l'économie dépend le plus des régions de l'Arctique. Donc pour la Russie, il ne fait aucun doute que ces régions arctiques sont un élément vital pour sa sécurité, pour son économie. On estime qu'il y a environ aujourd'hui 20% des exportations du PIB russe qui se situent au-delà du cercle polaire. Donc la Russie ne peut faire absolument aucun cas transiger sur ces territoires arctiques. Et c'est effectivement dans ce contexte qu'on observe également une rhétorique norvégienne de plus en plus volontariste à l'égard de l'Arctique également.
Camille Escudé, on va accueillir dans un instant Marion Schelkens, on va parler de l'Union européenne, mais il y a un pays dont on n'a pas encore parlé, et quand on parle de géopolitique aujourd'hui en 2020, c'est un pays qui est incontournable, c'est la Chine. Alors évidemment, la Chine est très loin géographiquement, bien sûr, mais est-ce qu'elle a des ambitions, des velléités dans l'Arctique ou pas?
Absolument. Ces ambitions, on peut les observer depuis une dizaine d'années, mais c'est vrai qu'on les observe de plus en plus récemment, maintenant qu'elles deviennent économiques. Au départ, c'était un certain nombre d'ambitions scientifiques, puisque la Chine est très investie de manière scientifique dans l'Arctique, et que c'était pour elle, un escabeau pour accéder à un poste d'observateur au sein du Conseil de l'Arctique, le principal forum de coopération qui rassemble tous les pays de l'Arctique et qui accorde des statuts de membre d'observateur à certains États comme la Chine. Chine. Mais aujourd'hui, la Chine, elle est évidemment investie, et ce très fortement d'un point de vue économique, qu'il s'agisse d'investissements financiers, vous allez certainement en parler dans votre émission consacrée à l'Islande, par exemple, mais également des investissements dans des projets économiques comme des mines, comme en Russie, pas très loin de la Norvège, le grand chantier de Yamal, également des infrastructures. Aujourd'hui, effectivement, les investissements chinois sont devenus incontournables pour comprendre la géopolitique de l'Arctique, et ce qui n'est pas sans inquiéter certains autres États arctiques, comme les États-Unis, par exemple.
Vous rappelez à juste titre que la Chine a un statut d'observateur au sein du Conseil de l'Arctique, qui est ce forum intergouvernemental qui a été créé dans les années 90. Et il y a un acteur qui voudrait bien l'avoir, mais qu'il n'y arrive pas, on va en parler. C'est l'Union européenne qui, malgré tout, voudrait se placer comme un nouvel acteur de l'Arctique.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
The Arctic is a region of vast importance.
L'Arctique est une région très importante, pas seulement pour les 4 millions de personnes qui y vivent, mais également pour l'Union européenne et pour le reste du monde. La région a un impact significatif sur nos océans, sur nos écosystèmes et sur la biodiversité. Elle a un énorme potentiel en termes de recherche et de développement, et de coopération internationale. C'est pourquoi l'Union européenne approfondit son action et son engagement. Nous allons continuer à travailler main dans la main avec les États de l'Arctique et avec nos partenaires mondiaux. Aucun pays ne peut affronter ces défis seul. Nous devons travailler ensemble, États membres, Union européenne et communauté internationale pour le bien de l'Arctique, de ses habitants et de notre planète. L'Union européenne est fière du rôle qu'elle peut jouer et prête à relever le défi.
Voilà le clip de présentation de l'action intégrée de l'Union européenne en Arctique, un clip qui remonte à 2016. Bonjour Marie-Ange Schelkens.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes docteur en droit, chercheuse associée à l'Université La Rochelle, en droit de l'Union européenne et droit de l'environnement. Cette Union européenne, elle s'intéresse à l'Arctique depuis quand ? Depuis quand on trouve des documents officiels qui nous disent effectivement qu'il y a des intérêts qu'on comprend bien, les ressources énergétiques, les considérations liées au réchauffement climatique, on les comprend bien. Mais depuis quand l'Union européenne affiche vouloir se placer en acteur de l'Arctique ?
Écoutez, l'Union européenne est arrivée un peu tard sur la scène arctique. En fait, c'est lié à l'intervention, donc à l'adhésion de la Suède et de la Finlande en 1995, qui fait entrer un territoire arctique dans le domaine de l'Union européenne. Et la mise en place d'une politique a pris pas mal de temps. Le premier document de l'Union européenne consacré à l'Arctique date de 2008. Mmh. Et c'est un document qui a été révisé en 2012. Et la communication actuelle, donc date de 2016, elle est en cours de révision. Donc c'est une intervention assez tard dans la scène arctique.
Donc on a là aujourd'hui un processus de concertation. Est-ce que ça veut dire qu'en réalité, quand on regarde les choses, on n'est pas d'accord entre nous et on n'a pas de politique européenne commune pour l'Arctique ?
Il y a une politique qui s'appelle une politique intégrée commune pour l'Arctique. Et ce n'est pas vraiment une politique dans le sens où on entend une politique donc avec une vision stratégique et un plan d'action. Mmh. Il y a énormément d'activités qui sont liées à l'Arctique et qui sont développées au niveau de l'Union européenne, mais elles n'ont pas encore, je dirais, une certaine cohérence. C'est une politique qui est en construction actuellement. Mmh. Donc, il y a énormément d'actions, en particulier l'Union européenne est tout à fait reconnue pour son action en matière de recherche, ses financements de la recherche, ou sa lutte contre le changement climatique en Arctique. Mais il manque encore une structuration de la politique dans un sens qui serait plus efficace.
Oui, aussi parce que, au fond, quand on regarde les choses en Europe, tous les pays ne sont pas vraiment tournés vers l'Arctique. Certains le sont, d'ailleurs certains sont observateurs dans le Conseil de l'Arctique. Il y a la France, il y a l'Espagne, il y a l'Italie, je crois qu'il y en a d'autres. S'agissant de la France...
Il y en a une dizaine,
mais pas tout le monde. Mais si on regarde, s'agissant de la France, par exemple, elle est très impliquée depuis longtemps dans l'Arctique. Il se trouve qu'il y a quelques semaines, on a un nouvel ambassadeur des pôles qui a été nommé en remplacement de Ségolène Royal, qui avait quitté le poste en janvier 2020. C'est Olivier Poivre d'Arvan. On le connaît bien ici. C'est l'ancien directeur de France Culture. Alors qu'on pensait que le poste serait supprimé. C'est ce qu'avait dit, en tout cas, un rapport d'information du Sénat. Finalement, le poste est maintenu. Comment interpréter la chose? Est-ce que ce retour d'un ambassadeur des pôles, c'est finalement le signe que, eh bien, à Paris, on préfère jouer une partition diplomatique nationale plutôt que de passer par l'Union européenne ?
Pas vraiment. Je pense que les deux stratégies sont complémentaires. C'est-à-dire que l'Union européenne n'est pas compétente partout. Et vous remarquerez que la stratégie arctique française, surtout le document le plus récent en tout cas, se concentre principalement sur les questions stratégiques qui n'est pas du tout le cas de la politique de l'Union européenne. Pourquoi ? Principalement parce que les questions de défense donc, sont des compétences qui restent aux mains des États membres, et où la France peut se profiler de manière plus visible que dans les questions, dans les politiques communes, comme par exemple la pêche, qui est une compétence exclusive de l'Union européenne, où là, la France n'a rien à dire en particulier. C'est un des problèmes de la visibilité de l'Union européenne.
D'accord.
C'est que les stratégies nationales cohabitent avec les stratégies de l'Union européenne.
Oui, comme souvent d'ailleurs. Marion Schelkens, on vous entend à peu près, mais c'est vrai que c'est pas parfait. Si vous pouviez vous rapprocher un tout petit peu du micro, les auditeurs vous entendraient mieux. On va poursuivre. Bien, je disais tout à l'heure que l'Union européenne avait demandé le statut d'observateur au Conseil de l'Arctique. Il se trouve qu'on lui a refusé. Pourquoi est-ce qu'on lui a refusé? Qui lui a refusé?
Alors, plusieurs personnes, ça dépend des périodes. Donc, les premiers refus provenaient du Canada, en raison principalement, le Conseil de l'Arctique, vous en avez probablement discuté précédemment, le Conseil de l'Arctique donc, marche par consensus, donc chaque État peut bloquer une demande de membre observateur. La candidature de l'Union européenne a été bloquée une première fois en 2014 par le Canada, en raison d'un différend sur les produits commerciaux dérivés du phoque, avec l'Union européenne, donc. Puis, ce différend a été résolu, et c'est plus tard la Russie qui a bloqué suite aux représailles après l'annexion de la Crimée. Donc chaque fois, et pour l'instant, donc le différend avec le Canada est résolu, mais le différend avec la Russie reste présent.
C'est grave pour l'Union européenne, Marion Schelkens. Je veux dire, quel serait l'avantage pour l'Union européenne d'avoir ce statut au Conseil de l'Arctique?
Alors c'est un avantage plus diplomatique qu'autre chose, puisque l'Union européenne s'est vue reconnaître donc un statut d'invité spécial qui lui permet de participer au groupe de travail de manière relativement convaincante et normale. Mais c'est une question de visibilité et de reconnaissance de son statut d'acteur arctique.
Et l'avantage ou le désavantage du côté de la Norvège, est-ce que la Norvège aurait intérêt à voir l'Union européenne intégrer ce Conseil de l'Arctique ou pas tellement?
Alors la Norvège est tout à fait en faveur de l'adhésion de l'Union européenne en tant qu'observateur. Elle l'a mentionné dans plusieurs documents diplomatiques issus par le ministère des Affaires étrangères. Elle reconnaît la validité de l'action européenne en Arctique, en particulier au niveau de la recherche, au niveau de l'action climatique et environnementale. Donc la Norvège est tout à fait un soutien de l'Union européenne dans ce domaine.
Je rappelle, peut-être pour les auditeurs, que la Norvège est membre de l'espace économique européen, mais pas de l'Union européenne. Voilà. Non, parfois, il arrive qu'on l'oublie. Encore un dernier point, Marion Schelkens. En 2008, Michel Rocard, le premier à avoir justement occupé le poste d'ambassadeur des pôles, avait formulé une proposition qui avait été reprise par le Parlement européen de sanctuarisation de l'Arctique, un petit peu sur le mode de l'Antarctique, sanctuarisé à des fins scientifiques, même si c'était pas tout à fait la même chose. Mais à l'époque, l'initiative, finalement, avait été sans lendemain. Alors, on se doute bien qu'aujourd'hui, compte tenu des enjeux énergétiques, économiques, des tensions géopolitiques qu'il y a autour de la zone, ça serait encore moins envisageable. Mais à l'époque, pourquoi ça n'avait pas abouti? Qu'est-ce qui avait fait obstacle?
La même chose que maintenant, je dirais quelque part, on oublie très souvent que l'Arctique n'est pas comme l'Antarctique, c'est une zone habitée. Et une zone habitée dans des pays souverains. On ne peut pas traiter l'Arctique comme l'Antarctique. Il y a des peuples qui dépendent, vous avez des peuples norvégiens, des peuples finlandais ou autres, ou canadiens ou russes. Donc la sanctuarisation de l'Arctique ne pourrait se concevoir que pour l'océan Arctique central, qui est une zone, elle, qui ne dépend de personne. Mais la stratégie française, par exemple, qui commence en disant que l'Arctique, justement, est une zone qui n'appartient à personne, est fausse. C'est ce qui a fait en sorte que cette proposition de Michel Rocard n'a pas abouti et qui est généralement qui pose problème dans beaucoup de discussions sur le statut de l'Arctique.
Peut-être une réaction de nos deux invités, Camille Escudé et Florian Vidal. En guise de conclusion, on arrive presque au terme de cette émission, mais on a encore deux minutes l'un et l'autre. Que vous inspire cette difficulté de l'Union européenne, à la fois à fixer au fond une politique commune dans cet espace-là, mais aussi à s'imposer face à des acteurs qui considèrent que c'est leur précaré finalement. Camille Escudé.
Je pense qu'une des difficultés, c'est effectivement que la politique de l'Union européenne est très tournée vers la protection de l'environnement face à de nouveaux acteurs comme la Chine, qui, eux, ne s'embarrassent pas de tant de précautions. Et c'est effectivement ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire que l'Union européenne n'a pas de véritable politique unifiée, mais on peut espérer que la nomination d'un nouvel ambassadeur, Michael Mann, au printemps 2020, va peut-être venir à la rescousse de ce manque de visibilité et imposer l'Union européenne comme un acteur important en Arctique.
Florian Vidal.
Oui, effectivement, c'est le manque de vision commune, cohérente, de stratégie au niveau de européen en fait, et non pas seulement au niveau des États de l'Union européenne, permettrait, je pense, d'avoir un plus grand poids en fait au sein des affaires arctiques que peut aujourd'hui prétendre l'Union européenne.
Merci beaucoup à vous, en tout cas à Marie-Ange Schelken. Je rappelle que vous étiez avec nous depuis la Belgique. Vous êtes docteur en droit, chercheuse associée à l'Université de La Rochelle en droit de l'Union européenne et de droit de l'environnement. Merci beaucoup à vous.
Dans le nuage roulé, vêtu à fiasser pour, et gransker deg nærmere. Du holder deg inne. Noen her ute hører at du banker på. Jeg hører deg puste. Kan jeg få nå deg nå? Jeg gransker deg nærme. Ser ingen hjemme.
Voilà, je disais en Belgique, pas du tout. Vous êtes en Suède, Marie-Ange Schelkens. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. Un grand merci également à Florian Vidal et à Camille Escudé de nous avoir éclairés sur ces enjeux autour de l'Arctique et de cette Norvège à la conquête des glaces. On poursuivra demain notre série consacrée à ces pays nordiques. Et puis on parlera jeudi de ces peuples autochtones. On l'a un tout petit peu évoqué. C'est vrai que derrière tous les enjeux qu'on évoque depuis lundi, eh bien, il y a aussi des peuples. On a parfois tendance à l'oublier, on en parlera jeudi. Mais pour l'heure, c'est Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors le 17 décembre 2010 est généralement considéré comme la date de départ de ce qu'on a appelé les printemps arabes à Sidi Bouzid en Tunisie, et c'est il y a 10 ans donc un mouvement de masse qui allait soulever tout le monde arabe. Le bilan aujourd'hui, Brice?
Eh oui, la révolution du jasmin, comme on l'a appelé, n'a guère connu le succès qu'en Tunisie précisément. Le 10e anniversaire des printemps arabes ne sera guère célébré, et pour cause, les espoirs qui ont fait descendre dans les rues du Caire, de Damas, de Sanaa, des centaines de milliers de manifestants réclamant la liberté, la dignité, la démocratie, ont été soufflés. Les peuples sont déçus et amers, mais que les dictateurs soient encore au pouvoir dans un grand nombre du pays du Moyen-Orient et que quelques autres soient à feu et à sang, comme le Yémen et la Libye, ne signifie pas que l'état des choses soit redevenu tel qu'il était en 2010. Selon Mark Lynch, dans la revue Foreign Affairs, en tous les cas, le Moyen-Orient d'aujourd'hui est méconnaissable. Tout d'abord, Ben Ali en Tunisie, Moubarak en Égypte, Kadhafi en Libye ont bien été renversés. Certes, Bachar el-Assad, dont le régime paraissait condamné, a été maintenu au pouvoir par l'intervention de la Russie et de l'Iran au prix de centaines de milliers de morts et de plusieurs millions de déplacés. Mais en Algérie, c'est l'esprit des printemps de 2010-2011 qui a mobilisé un peuple qui s'était senti insulté par la nouvelle candidature à la présidence d'un Bouteflika manifestement hors d'état de gouverner le pays. Les printemps arabes ont été un défi pour un ordre régional soutenu par les États-Unis. Or, ceux-ci se sont retirés de la région par étapes. Il y eut d'abord la reculade d'Obama, renonçant à punir le régime de Damas pour l'emploi d'armes chimiques malgré ses propres engagements. Son insistance à obtenir un accord sur le nucléaire avec l'Iran lui a aliéné une part des alliés traditionnels de l'Amérique. Trump, lui, ne voulait absolument pas d'un tel accord avec l'Iran car il s'imaginait que Washington avait les moyens de provoquer un changement de régime à Téhéran. Il a laissé la Turquie intervenir militairement dans le nord de la Syrie afin d'empêcher la formation d'un État kurde à sa frontière. Enfin, l'absence totale de riposte américaine au bombardement par l'Iran d'importantes raffineries de pétrole en Arabie Saoudite a achevé de convaincre les puissances régionales de la réalité du désengagement américain.
Il leur a fallu tenter d'imaginer un nouvel ordre régional, mais y sont-elles parvenues ?
Non, parce que de nouveaux clivages sont apparus au sein même du monde sunnite. Le blocus du Qatar, accusé de protéger les frères musulmans par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, a bloqué le Conseil de coopération du Golfe. Les initiatives maladroites du jeune prince Mohammed Ben Salman ont provoqué diverses catastrophes, en particulier l'intervention de son pays contre les Houthis au Yémen. Elles ont contribué à amoindrir l'influence de Riyad. Conclusion de Mark Lynch, la victoire des autocrates sur les peuples était au moins censée ramener de la stabilité dans la région, il n'en est rien. Car les nouvelles divisions apparues au sein du monde sunnite et le retrait américain ont créé des opportunités d'intervention pour des puissances non-arabes, écrit de son côté Shlomo Ben-Ami sur le site Project Syndicate. La Turquie et la Russie, mais bien sûr, mais aussi l'Iran chiite, y ont trouvé de nouvelles occasions d'étendre leur influence. Dans le cas de l'Iran, c'était directement et surtout via les supplétifs que compte Téhéran, de l'Irak au Liban, en passant par la Syrie et le Yémen. Mais si Mark Lynch reproche aux États-Unis d'avoir toléré le coup d'État du maréchal Abdel Fattah al-Sissi, Shlomo Ben-Ami adresse lui le reproche inverse, d'avoir trop aisément accepté l'élection en Égypte d'un président issu des frères musulmans Mohamed Morsi. Une des grandes nouveautés du Moyen-Orient, c'est en tout cas la normalisation par Bahreïn, les États arabes unis, le Maroc et le Soudan de leurs relations avec Israël. Ces États reconnaissent en l'État juif un allié fiable dans leur lutte contre l'Iran. Pour bénéficier de sa coopération, ils ont abandonné les Palestiniens. La solution du conflit israélo-palestinien ne passe décidément plus par la création de deux États. Mais les deux spécialistes convergent en tout cas sur leur conclusion. Davantage d'éruptions de colère paraissent à présent inévitables. Il y a trop de facteurs d'instabilité pour que même le plus draconien des régimes puisse rester indéfiniment en place, selon Mark Lynch. L'évolution du terrain géopolitique dans le monde arabe est vouée à se poursuivre. L'issue dépendra d'un certain nombre de facteurs, notamment de savoir si et quand l'objectif de démocratie mobilisera à nouveau les populations arabes, écrit de son côté Shlomo Ben-Ami. Lors de la dernière tentative révolutionnaire, ce sont les islamistes qui ont tiré les marrons du feu. Personne ne peut prédire quelles forces politiques sortiront vainqueurs de la prochaine éruption, mais personne non plus ne doute qu'elle aura bien lieu.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture et l'application Radio France. Et d'ailleurs, tiens, j'en profite pour dire aux éditeurs qu'on prépare une série d'émissions qui sera consacrée justement au printemps arabe. On essaiera de la diffuser la semaine effectivement de la commémoration des 10 ans de la chute de Ben Ali. On vous retrouve demain, Brice Couturier, et dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.
Pour la fin d'année, offrez-vous France Culture, des philosophes amoureux, des animaux, les dernières nouvelles de l'univers.
France Culture, l'esprit d'ouverture.